Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes toujours très fiers quand nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre sur la 93.5 pour cette émission Club de la Presse. 8 morts et 3 blessés, c'est le bilan établi par le gouvernement à la suite de l'accident survenu le vendredi dernier à Gwezongo. Le drame a été causé par un camion semi-remorque transportant une citerne de gaz qui a percuté la plateforme supérieure de la passerelle d'Agwezongo. L'effondrement a entraîné la destruction du camion lui-même ainsi qu'une voiture et de deux tricycles transportant des passagers. Cette situation tragique repose la question de l'état de nos infrastructures routières. Comment ces travaux sont exécutés? Quel suivi et quel contrôle de ces travaux pour un bon usage? Je poserai ces questions à mes confrères journalistes présents dans ce studio avec moi. Nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la Presse de ce lundi 16 décembre. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitok Beitoumega est à la mise en onde. Jérôme Dakoutia assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Merci fraternel à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapao. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibra Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est l'analyse, le débat, le décryptage de l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Premier journaliste ou confrère qui a répondu à notre invitation et qui est dans le studio avec moi, c'est bien Gosson Ketomania. Gosson, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je rends grâce à Dieu. Bonjour à...
Gosson, il semble que on a du mal à vous écouter. Je ne sais pas si c'est votre micro qui a un petit souci. Vous permettez quand même que je vous déplace. Voilà. Alors, bonjour, ça peut aller.
Donc, aux auditeurs de Canal FM et assidus lecteurs de Liberté, nous adressons nos salutations les plus fraternelles. Tout à l'heure, je pensais accusé tellement de retard, parce que quand moi je t'envoyais le message pour te prévenir, oui, il était moins 20. J'étais au niveau du CMS d'Agoué.
Voilà.
J'étais à moto, ne me demande pas comment j'ai fait pour arriver à l'heure.
Effectivement, quand je t'ai vu venir à l'heure, puisque tu m'as déjà prévenu, oui, et que tu vas accuser un peu de retard, mais quand je t'ai vu, ça m'a rassuré quand même.
C'est ça. Faut dire que sur cette voie, il n'y avait pas de passerelle, ni d'accident. C'est ce qui a peut-être permis à ce que j'accélère un tout petit peu et pour répondre à l'heure, presque à l'heure. Voilà.
Presque à l'heure, c'est très important d'être toujours à l'heure. Et comme vous aimez bien le dire, c'est la philosophie, quand on parle de la ponctualité, hein, c'est la philosophie des hommes sages, hein, j'espère.
Mais c'est pas pour rien qu'il y a l'adage selon lequel les attitudes et la politesse des hommes, des rois, pour vous témoigner leur respect, ils sont tenus d'être à l'heure. Malheureusement, je viens d'en faire même l'expérience, la meilleure expérience, nos autorités en général et certains qui ont un pan de pouvoir se plaisent à venir en retard. Mais je me dis, c'est pas irrespect du peuple. S'ils savent que c'est pas le peuple que notre président est là, ils se doivent de respecter ce peuple-là. Parce que s'il s'était agi de répondre à un rendez-vous fixé par le président de la République, je t'assure qu'ils vont arriver peut-être 30 minutes avant l'heure.
Pourquoi pas une heure?
Voilà. Donc c'est pour dire que chacun doit considérer l'autre comme étant un président. Et la moindre des choses à lui devoir, c'est la ponctualité.
Oui, des fois, le problème aussi, c'est que on remarque c'est ce retard, hein, le retard alors dans pratiquement tout le monde dans la société, et de telles enseignes même d'ailleurs, quand on justifie cela, on dit que non, l'heure africaine. Et je pense que c'est ce n'est pas aussi séant, et ça n'amène pas la discipline.
Je ne vais jamais m'inscrire dans cet état d'esprit. En ce sens que, de par l'éducation que mes parents, Dieu merci, sont toujours encore vivants,
et ça, c'est une m'ont
inculqué, tu ne peux pas aller à l'école en retard. Tu ne peux pas aller devant Dieu en retard. Donc, fort de tout ce bagage, c'est naturellement que je trouve normal d'arriver à l'heure. Et c'est pas pour rien qu'on dit que l'heure avant l'heure n'est pas l'heure et l'heure après l'heure n'est plus l'heure.
Ah, ça, c'est clair.
J'aime toujours arriver 5 à 10 minutes avant l'heure. Et si je dois accuser un retard, je prends la peine, par politesse, d'avertir. Là, on accepte mieux ce retard. Ils sont nombreux, ces ministres, qui viennent 20, 30, une heure de temps après l'heure fixée. Comme si les journalistes ou le bas peuple n'avait rien d'autre à faire. Je ne m'inscrirai jamais dans cette veine. Jamais.
Et des fois, la phrase fatidique, c'est que la phrase passe-partout, c'est qu'on dit tout simplement que ce retard est indépendamment alors de notre volonté. Et quand on vient le dire, ça aussi, ce n'est pas pour se dédouaner.
C'est tellement rébarbatif que ça n'a plus de sens. Parce que si l'autorité doit accuser un retard, qu'on prenne la peine, comme je l'ai déjà dit, d'avertir l'assistance. Mais si c'est après le retard consommé qu'on vient présenter de plates excuses, je me dis, ça ne fera jamais avancer notre Togo commun. Mmh. Jamais.
Ça ne fera jamais avancer notre Togo commun.
Non. Cultiver c'est-à-dire entretenir la culture du retard. Je ne serai jamais d'accord. Jamais.
D'accord. Je ne sais pas si Didier Assogba a su entretenir aussi la culture de retard, telle que tu le dis. Didier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Bonjour à mon aîné en studio.
J'espère que tu vas bien.
Dieu fait grâce, on est debout aujourd'hui, c'est ce qui compte.
Le week-end, ça s'est bien passé?
Par la grâce de Dieu. On était en famille seulement, donc c'est ce qui compte.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, nous attendons aussi à notre confrère journaliste, c'est bien Gadiel Tournadi. Gadiel qui viendra nous annoncer, nous parler alors du marché du bien-être et de la santé. Nous l'attendons bien sûr impatiemment pour discuter un peu alors de ce marché du bien-être et de santé que le journal Santé Éducation organise souvent. Alors, j'évoquais ce sujet déjà dans mes mots introductifs, c'est par rapport à cet accident meurtrier qui a eu lieu le vendredi dernier à Gwezongo. Oui, le bilan, c'est 8 morts et 3 blessés. Et ces 3 blessés sont en soins dans l'un des hôpitaux quand même du pays ou de la capitale. Alors, c'est vrai, nous avons appris la mauvaise nouvelle le vendredi là, le vendredi dans la soirée, puisque c'est entre 15 et 16 heures que cet accident ou ce drame s'est produit. Et Gosson, comment vous avez accueilli cette information?
Avec beaucoup de tristesse et de désolation. En ce sens que c'est ma voix, vu que j'habite désormais à Davier, c'est celle que j'ai encore pratiquée pour arriver ce matin. Et donc, fort heureusement, le vendredi, je n'étais pas sorti de la maison. Autrement, qui sait? Pour ce qui est de mes sentiments, c'est des sentiments d'indignation et de révolte.
Comment ça?
En ce sens que déjà en juillet 2022, le journal Liberté avait parlé des passerelles en prenant l'exemple sur celles qui sont installées sur le campus universitaire. en ce sens que elles sont démontables, faciles à manipuler et ne prennent pas du tout de temps pour être installées. Mais avec les passerelles en béton, quand l'entreprise commence son installation, elle met au moins un trimestre, 3 mois pour installer ça là, pour causer ce dégât. Nous avions parlé de la dilapidation des fonds publics et de la perte de temps. Imagine Pascal, si c'était avec des barres de fer qu'on avait fait cette passerelle ou les passerelles du Togo, en cas d'accident, je doute que ça fasse autant de dégâts que ce qui a été constaté vendredi dernier. De par le poids déjà qu'on parle de béton, on comprend que c'est du lourd. Et ce béton qui va chuter sur un véhicule, on ne va pas donner cher de la vie des occupants. Je suis indigné en ce sens que on n'a pas présenté de statistiques aux endroits où on a décidé d'installer ces infrastructures aux populations pour les convaincre que c'est compte tenu de telles situations qu'on pense installer ces infrastructures. Ça passe. Et même quand on aura fini de convaincre les populations, les conditions d'installation d'une passerelle, je te le dis, je te mets au défi de même prouver le contraire. On n'installe pas de passerelle à un carrefour. Puisque, pour avoir visité l'extérieur, j'ai vu des passerelles qui ont des dispositions qui obligent les usagers, les piétons, à les emprunter. Comment? Sur le terre-plein plein central, on met du béton de séparation qu'une personne ne peut pas enjamber. Et ce béton est installé sur une certaine distance. Ce qui fait que quand tu es de part et d'autre de ce béton, plutôt que d'aller le contourner et de traverser la voie sans passer par la passerelle, tu es contraint d'utiliser la passerelle. Parce que le temps que tu vas mettre pour contourner le béton, c'est long. Ici, il y a qu'à Bojomi que tu verras ce béton qui oblige les passagers à l'utiliser. Mais va voir si on pouvait nous sortir des statistiques pour nous dire que depuis l'installation ou l'érection de cette passerelle à Agouezongo, voilà le nombre de citoyens qui l'ont utilisé, emprunté. Je serais convaincu de la justesse de ce truc-là qu'on a imposé aux citoyens. On ne sait par quel appel d'offres ouvert et qui, plutôt que de servir la population, est aujourd'hui source de mort. Je suis triste, très triste.
D'accord. Didier, c'est vrai, quand on apprend que un camion a percuté la plateforme supérieure de la passerelle et cette plateforme est tombée, alors est-ce que ce n'est pas très facile ça?
Oui, mais depuis vendredi, j'essaye de me faire la scène, mais je ne parviens toujours pas. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau et je pense qu'il faut il faut beaucoup plus de clarification. Au-delà du bilan qui a été servi au public et aux médias, il faut aller bien au-delà et qu'on nous situe sur un certain nombre de faits. Est-ce que, d'abord, le camion qui emprunte là, est-ce qu'il est signalé au camion la hauteur de la passerelle pour que justement un camion qui transporte un camion qui transporte une marchandise ou transporte quelque chose qui fait que son gabarit dépasse déjà la hauteur ne puisse pas s'aventurer à s'approcher de la passerelle naturellement. Est-ce que c'est signalé la hauteur là? Est-ce que c'est signalé où les gens font par tâton? Et si tu passes, c'est que tu as pu passer. Et si tu n'as pas pu passer, comme la dernière fois, tu n'as pas pu passer. Voilà déjà la première question qu'il faut se poser. Oui, Gosson disait que les passerelles, on en a vu bon, dans la sous-région, on voit à peu près la façon dont on les érige également. Sachant que nous n'avons que cette seule voie pratiquement qui permet de sortir de Lomé. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour les gros porteurs dont on sait qu'il peut arriver que des gens peuvent porter des conteneurs, porter des choses dont la hauteur peut être à un niveau où il sera difficile de passer au niveau de cette passerelle-là. Sachant, je rappelle encore, que cette voie-là est la seule pratiquement qui permet de sortir de Lomé aujourd'hui en direction du nord. Voilà. Là également, ça reste aujourd'hui. Ça peut pas plaire à des gens, mais c'est une aberration pour nous en 2024 que ça soit actuellement la seule voie. Et c'est sur elle qu'on choisit de mettre une passerelle avec, justement, quand on parle de passerelle, il y a une limitation de hauteur en haut. Alors que nous avons de gros porteurs. Bon, le hub logistique, hein, c'est ce que nous avons dit que nous sommes. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un problème. Maintenant que nous avons exploré ces contours-là, on va maintenant poser la question sur la solidité même de la passerelle. Bon, ça va beaucoup plus intéresser Godson sur la passation déjà du marché, l'appel d'offres, la passation du marché public. Qui a eu le marché, qui a exécuté les travaux, et qui a été le cabinet de contrôle, le bureau de contrôle, et quels ont été, quand est-ce que les travaux ont été réceptionnés, et qui a pu attester de la qualité des travaux. Parce que, bon, dire qu'on a percuté et que le béton tombe, c'est à la limite, c'est trop facile. C'est trop facile, et c'est un ouvrage public. Pas un ouvrage d'un individu, bon voilà, c'est pas l'immeuble de Sagbado quand même. C'est pas l'immeuble de Sagbado, c'est un ouvrage public donc supposé être passé par le tamis de l'affaire des appels d'offres et puis bon voilà de et puis également des contrôles et tout ça et de réception. Est-ce que tout ça a eu lieu? Qui a pu attester de la qualité de cette passerelle-là? Parce que même si, ça veut dire que cette passerelle-là, même si elle n'est pas percutée aujourd'hui par ce camion et que ce qui est arrivé aujourd'hui soit arrivé, ça veut dire que dans les années à venir, il peut y arriver que justement des gens soient en train de passer dessus et que justement... Parce que c'est pas de bonne qualité, c'est pas solide que des drames pareils puissent arriver. Parce que dans la durée, quand les dalles qui ne sont pas solides vont commencer à s'effriter de l'intérieur, donc le drame peut arriver pendant que des gens sont en train de traverser. Oui, elle peut s'écrouler. Et justement, les drames là, on pourrait toujours les avoir dans le futur. Donc voilà autant de questions que nous nous posons aujourd'hui qui méritent d'être éclaircies par les autorités, par une enquête où constituent les responsabilités des uns et des autres et qu'on regarde clairement quelle entreprise a réalisé les travaux. On pourra bien s'en prendre au chauffeur, il paraît que lui il est mort. Donc, mais il faut qu'aujourd'hui on demande des comptes clairement à des gens qui ont reçu de l'argent public pour faire ce travail-là, ce travail qui s'avère aujourd'hui être un travail de piètre qualité.
Et nous sommes rejoints par notre confrère Gadiel Tsounadi, je l'annonçais. Gadiel, bonjour.
Pascal, bonjour et bonjour à tous nos auditeurs, confrères ici, qu'on ne voit pas tous les jours. heureux d'être là ce lundi exceptionnellement.
Tout à fait. Et heureux d'être là, bien sûr. C'est vrai que nous parlons de cet accident qui est survenu le vendredi dernier. Et c'est à Goué Zongo. Alors, quand on prend ces questions de passerelle aujourd'hui, on avait mené même le débat ici au Club de la Presse, on poserait aussi la question de savoir quelle est l'utilité aujourd'hui alors de ces passerelles sur nos voies.
Bon, je sais pas. Moi, je pense que les conférences disent beaucoup de choses. J'aimerais juste présenter toutes nos condoléances aux familles qui sont touchées par cet accident d'une manière directe. Mais d'une manière indirecte, c'est tout le peuple togolais qui est touché. Parce que j'écoutais, vous disiez plus de 8 morts. Et c'est grave.
En fait, ce que le gouvernement a donné comme chiffre, c'est 8 morts et 3 blessés.
C'est absolument grave. L'intérêt de ces passerelles, un confrère le disait tantôt, c'est des choses qui existent dans des pays. Et je crois que c'est pour permettre aux piétons de traverser ces autoroutes, ces voies très empruntées, pour éviter un certain nombre d'accidents. Je crois que c'est ce qu'on est en train de faire ici dans notre pays, le Togo. Mais il faut qu'on nous installe de vraies structures. Parce qu'on ne va pas suspendre des choses en l'air et qui vont menacer la santé des populations. C'est extrêmement grave.
Au-delà de la santé, la vie.
Oui, la santé, la vie. Parce qu'il y a déjà des morts. 8 morts. C'est en ce moment, en ce mois de décembre, on va voir vers la fin de l'année, c'est spolié. La fin de l'année, c'est spolié au Togo. Avec ces décès-là. Alors, des structures, vous savez, en matière de santé, les voies, les structures, les bâtiments, ça fait partie de ce qu'on appelle la qualité d'infrastructure. Quand on installe des pacotilles qui menacent la vie et la santé des populations, c'est extrêmement grave. Alors là, bon, maintenant, je pense que, comme vient de le dire le confrère Sogba, il faut qu'on situe la responsabilité. C'est très important. Il faut vraiment que cela soit fait.
D'accord. Oui, mais Gossom, c'est vrai que les passerelles, on en dispose et beaucoup. Et parce que quand vous allez à Sigamé, au niveau de la plage, vous en trouverez. Vous allez à Dagué ou au Gbodjomé, vous en trouverez. À Gbodrafor, vous en trouverez. Mais il faut quand même qu'on se pose la question de savoir. Oui, c'est pour Agoué qui a constitué même d'ailleurs le danger et on dénombre même 8 morts. Mais et les autres, est-ce que ce danger n'y est pas?
Et comment, Pascal? Surtout que pour Agoué, Didier l'a dit, il n'y a pas de signalisation pour faire voir au chauffeur la hauteur prescrite. Et ce défaut est le fait de l'entreprise attributaire du marché. Je ne sais si c'est par gré à gré ou par appel d'offres ouvert. Ça, c'est d'un. Des passerelles, personnellement, je l'ai dit, déjà en juillet 2022, notre pays en a besoin. Un seul exemple, d'un seul endroit, au niveau du bassin de rétention de Todman, il y a plein d'élèves qui sont du côté du Ghana, qui traverse la voie chaque fois pour venir au CG de... Donnez-moi le nom.
CG, Clicamé.
Voilà. Chaque jour, il y a une foule qui traverse cette voie. À cet endroit, et même sur la voie de Adido Gomé, on a besoin de passerelles.
Et même à Colombe, au niveau de la Colombe de la Paix, voilà, où il y a une passerelle qui a été
érigée. Tout à fait, mais pas n'importe laquelle. Didier Palais faisait allusion à la nationale numéro 1. Pascal, nous cherchons à devenir attractifs vis-à-vis du transport de marchandises. Et surtout pour les pays de l'Interland. Mais la seule voie, comme il a dit, c'est cette nationale numéro 1. Maintenant, parlant de transport de marchandises, c'est vrai qu'il y a le règlement 14 de l'UEMOA qui interdit un certain gabarit.
Tout à fait. Il y a sur ce point, il y a Mega Info qui titre, bien sûr, ce matin, règlement 14 de l'UEMOA, sauver des vies et préserver la route.
Malheureusement, ce n'est pas n'importe quelle marchandise qui étaient transportés. Parce que on voit des camions remorques qui transportent des marchandises et en mettent à une certaine hauteur. Là, ce n'est pas la hauteur normale du camion. Ce qui est différent du camion citerne. J'ai appris hier à l'entraînement que le plateau sur lequel la citerne était posée était très relevé. On aurait pu poser cette citerne derrière un porte-char, que ça n'allait rien occasionner. Mais une fois encore, je me dis, si sur la nationale numéro 1, vous avez limité la taille sans indication. Pascal, il y a problème. Je sais, c'est notre pays, que rien ne sera fait à cette entreprise qui a exécuté les travaux. Ailleurs, il y a encore des passerelles. Je le répète, quelle étude on a faite pour savoir que à tel endroit, franchement, on a besoin de passerelles? Parce que dans ce sens, il faut associer normalement les mairies qui sont plus proches des populations, qui vont leur parler pour les amener, les inciter à emprunter ces infrastructures. Mais si c'est juste pour arrondir les angles d'une société, vous lui confiez les travaux, si c'est pas gré à gré, je m'en fous, et sans consultation préalable des utilisateurs, vous venez leur imposer une chose. Donc j'attends ce jour-là où on va déployer des militaires pour obliger tous ceux qui vont traverser à emprunter la passerelle.
Mais ça se fera.
Pire, on en a installé même au carrefour. Donc, quelle que soit la distance du béton armé de séparation dont j'ai parlé, le piéton va attendre. Quand il y aura le feu tricolore, il va traverser sans utiliser la passerelle. Donc, les endroits d'installation aussi posent problème. Il serait bien que ceux qui ont milité pour l'avènement de ces passerelles passent à la barre et répondent de leurs actes. Malheureusement, avec un exécutif et un législatif du même bord, je me demande comment ça va se faire. Malheureusement, avec le Sénat qui est en téléchargement.
D'accord, ok. Ouais, mais normalement, disait, est-ce que ce n'est pas quelque chose que le législatif, c'est-à-dire les députés, devaient prendre en compte et interpeller même d'ailleurs l'entreprise en charge de ces constructions de passerelles?
Non, mais est-ce que les députés ont la possibilité d'aller interpeller directement l'entreprise? Non, il y a quelqu'un qui se charge des travaux publics. Il y a un ministère des travaux publics. Ce poste a été pourvu, à ma connaissance. Donc, si les députés veulent voir clair dans ce dossier, ils n'ont qu'à interpeller le gouvernement, au moins le ministre des travaux publics, pour que justement, ce qu'il sait de cette affaire-là, de construction de cette passerelle-là, qu'ils viennent s'expliquer à l'Assemblée nationale. Et si les députés ne sont pas satisfaits ou convaincus de ces explications, s'il y a d'autres actions à mener, on pourra mener les actions. Sinon, laisser des choses comme ça dans la République passer tranquillement et que, voilà, on fait le bilan, 8 morts, 3 blessés graves, et qui peuvent mourir également ensuite, mais malheureusement on n'en saura plus, et donc on laisse des choses comme ça passer dans la ville, c'est pas correct, ce n'est pas du tout bien. Donc Gosson s'inquiétait de ce que on a un seul parti politique qui détient l'exécutif et qui détient également le législatif. En temps normal, dans une république, ça devrait pas poser des questions si la république prime sur les autres considérations. Donc moi je ne veux pas être pessimiste, qu'il faut que des choses qui se passent comme ça puissent nous pousser à faire un certain nombre de choses dans les normes pour que, justement, demain, on ne sait pas quel petit-fils d'un député pourrait être en train de passer sous une passerelle avant que cela ne se passe. Demain, on ne sait pas quel petit-fils d'un ministre ou d'un haut perché de la République, d'un haut gradé, serait en train de passer là-bas avant que le drame des passerelles ne se passe. Où on parle aujourd'hui des passerelles, on peut multiplier, parler d'autres choses également. Et parmi les 8 morts là, si on cherche bien, il y a forcément quelqu'un quelque part qui est proche et dont la famille est proche. Et donc du coup, comme Gadiel le disait, on a dit c'est les familles éplorées, mais c'est tout le Togo. Parce que quand vous allez chercher, c'est quelqu'un qui est proche de quelqu'un, qui a perdu quelqu'un là-bas. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas que ceux qui sont morts, c'est nous tous que cela concerne aujourd'hui. Et donc, il faut justement qu'on puisse ne pas laisser passer cette histoire-là, qu'on creuse bien. Et quand on finit de creuser et on situe les responsabilités, on revoit également la manière ou le modèle, voilà, la maquette qu'on a arrêtée pour la construction de nos passerelles. Comme il le dit, si je dois monter, tout le monde sait que si je dois monter, prendre les escaliers alors que je peux aller directement là-bas, je vais aller. Mais s'il n'y a rien qui me dit que traverser comme ça tranquillement, c'est plus fastidieux que de monter, je veux facilement monter. À Accra, c'est des choses comme ça, mais vous ne pouvez pas chercher à traverser parce que le béton armé vous en empêche et vous allez tellement marcher fatigué. Donc, la solution la plus simple, c'est de prendre les escaliers. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui contraint les gens à prendre les escaliers, l'être humain étant pressé, voudra prendre la solution, vous en prenez les raccourcis. Donc, et justement, quand on fait des choses comme ça, on laisse ouvert, les gens vont prendre les raccourcis. Et donc, essayons pour cette fois que cette histoire-là nous donne à nos techniciens, à nos ingénieurs, à nos techniciens des travaux publics, leur donne encore plus d'idées afin que ces passerelles-là, on puisse les renforcer, on puisse les revoir complètement et pour que des drames pareils ne n'arrivent plus.
C'est vrai que je posais la question à Didier, mais sous d'autres cieux, déjà quand un tel drame se produit, automatiquement le législatif pourra alors s'en saisir et interpeller qui de droit. Mais finalement, je ne veux pas être aussi pessimiste comme Gosson, mais est-ce que vous, à votre niveau, vous pensez quand même que le législatif pourra faire un travail comme cela?
Est-ce que pour de tels cas, est-ce que le législatif agit? Est-ce que c'est de tradition pour le législatif d'agir ainsi? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça dans l'actualité au Togo, donc...
Les nouvelles commissions créées, je crois qu'il y a la commission sécurité.
On va voir ce qui va se passer. Ça serait bien parce que c'est comme ça que les choses devaient se passer dans une république. Là, c'est une structure, une infrastructure publique qui a craqué. Donc, il y a eu un accident de la route avec des morts. Et c'est très important, très nécessaire qu'on fasse la situation tout autour. Vous savez, ailleurs, depuis là, le ministre des Transports devait déjà s'exprimer. On devait avoir tout un balai tout autour. On est lundi, on va voir ce qui va se passer. Mais nous le disons toujours, les installations des infrastructures publiques, c'est de la qualité. C'est de la qualité et il faut éduquer. Et il faut l'installer, comme les confrères veulent le dire, comme ce qui se fait ailleurs, comme dans les normes. Vous savez, les passerelles, on a commencé par installer les passerelles au Togo, mais est-ce qu'on a éduqué les populations en ce que cela concerne? Est-ce que l'éducation est faite par rapport à cela? C'est ce que les gens disent. Les gens ont de la facilité à traverser tout juste, tout droit, au lieu de passer au niveau de la passerelle. Donc, il y a tout un... toute une généralité qu'il faut faire autour de cela, mais là nous sommes en deuil et c'est en République, il faut faire la situation, c'est absolument important.
D'accord, c'est absolument important. Oui,
je veux ajouter que parlant de l'interpellation du ministre des Transports, il y a une clarification à faire. Il y a un nouveau locataire certainement qui n'était pas là au moment de l'attribution de ce marché.
Le ministre des Travaux Publics.
Voilà. Mais la personne responsable de la commande, la PRMP, et les commissions d'analyse, de contrôle et autres là, n'ont pas changé. Parce que c'est elles qui ont attribué ou alors permis à ce que l'entreprise obtienne ce marché et se mette au travail. Donc, ce qui a lieu de faire, c'est, dans de pareilles situations, c'est toujours la tête qui va être interpellée et quitte à la tête de demander à tous ceux qui ont permis à ce que ça se produise de venir répondre.
Mais Gosson, sur ce point, est-ce qu'il n'y a pas la continuité de l'État? Et dans ce sens, allez, le ministre ne peut pas alors se dédouaner de ce qu'il n'était pas là avant que cela ne soit attribué comme marché.
Non, se dédouaner, non. C'est que si par en marché public, le responsable, c'est ça qu'on appelle la PRMP, la personne responsable des marchés publics. Ce n'est pas le ministre qui est l'autorité contractante qui va répondre. La PRMP et les commissions d'analyse, parce que pour attribuer un marché, ce n'est pas le ministre qui donne. Les autres font les analyses et lui présentent les résultats. Et au vu des résultats, il est clair, il apparaît que c'est telle société qui doit...
exécuter les travaux.
Voilà. Donc, si il est nouveau, il est arrivé, ce n'est pas sous lui que les, tout a été confié à cette entreprise. Donc, libre à lui de faire venir le responsable de l'entreprise pour qu'il réponde des défauts qui ont permis. Parce que quand on fait le tout, le seul défaut qui a permis la survenue de cet accident, c'est l'absence de barrière indicative de la hauteur. Parce que c'est placé 1 ou 2 mètres avant la superstructure. Donc, si le camion avait pu cogner la barre d'indication, possiblement qu'il aurait pu freiner. Il aurait senti le choc et compris que, ah, il y a problème. Il n'allait pas foncer et toucher la superstructure.
Je me souviens, au niveau d'Agbavi, il y a cette barre qui existe.
Tout à fait.
Voilà.
Et pourquoi qui, ailleurs,
on met 5,5
ici. Tout à fait. Et ça n'existe pas aussi au niveau de Adeti Kopé.
Voilà.
Ça existe au niveau de Legbasito. Pourquoi ailleurs et pas ici? C'est en ça que ceux qui ont manqué d'installer cela doivent répondre. Et au-delà, la commission de contrôle et de suivi. Parce que on a commencé à exploiter l'infrastructure. Pourquoi en est-il ainsi? Quand on sait que toutes les dispositions n'ont pas été prises pour sécuriser la vie des humains.
D'accord. Gazelle, je reviens à toi et pour le marché du bien-être et de la santé que Santé Éducation organise souvent, puisque quand on parle alors d'accident, on parle aussi de la santé, bien sûr.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qui va se passer alors pour ce marché que vous organisez et qui sera lancé même d'ailleurs le mercredi prochain?
Ok, Pascal, merci pour l'occasion. Le marché du bien et de la santé au Togo est à 106e édition. Vous savez, on a initié cette plateforme d'information d'éducation en 2017 pour un peu délocaliser notre travail de journaliste, étant un journal qui est écrit en français solide, pour aller vers les communautés et puis faire passer le message dans nos langues, le message de santé, la sensibilisation de santé. Donc là, nous sommes à la 6e édition et cette année, nous mettons plus l'accent sur l'éducation des cibles sensibles. Et ce mercredi, nous serons au marché d'Assiyeye à Didogomé pour discuter avec pratiquement 6000 femmes et hommes qui sont des revendeurs de ce marché. Et la sensibilisation va porter notamment sur les dangers qui entourent ce genre de travailleurs, des gens qui viennent s'asseoir devant leur étalage et qui font très peu de mouvements, très souvent, si le client n'est pas là, ou bien s'il n'y a pas les clients, ils sont dans une position assise. Et tout ce qui entoure la santé de ces personnes, et leur alimentation, leur hygiène de vie, et comment ils doivent se comporter. Vous savez, l'année passée, on a fait un dépistage au marché à Gouassiyeye. La plupart des femmes sont en surpoids, en obésité, elles sont hypertendues, glycémie très à la hausse. Et les statistiques nationales le prouvent. La dernière fois, on a publié l'enquête STEP, les résultats de l'enquête STEP 2021, et nous, on a crié au Togo alerte, parce que ça ne va pas, les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, c'est une épidémie actuellement au Togo, et il faut qu'on agisse. Donc, nous allons parler de tout ça là avec ces femmes, et ça sera le mercredi, très tôt le matin, on va faire... comment ces femmes, parce que vous savez, quand ces femmes quittent le marché, elles arrivent à la maison, elles disent qu'elles sont fatiguées, elles se couchent. Et est-ce qu'une femme qui va au marché pour vendre, elle peut marcher, elle peut faire le sport? Quel genre de sport? Les experts seront là le mercredi pour leur parler. Et puis, j'ai parlé de leur alimentation. Souvent, ce sont des femmes qui mangent à pain avec des poissons frits et de l'eau glacée et ces boissons que nous appelons santé éducation, des boissons poisons qui existent actuellement, toutes ces genres de sucreries, de boissons énergisantes que ces femmes prennent au marché et qui entament leur santé. Nous allons parler de tout cela à ces femmes. Et le jeudi, non, ça c'est le...
Le mercredi.
Le mercredi. Et le jeudi, nous serons au Collège protestant pour faire une grande conférence publique sur comment vaincre, comment éviter, comment vaincre les maladies cardiovasculaires. Vous savez, quand quelqu'un est testé hypertendu, ou bien on vous détecte le diabète, le moral des gens part déjà et un certain discours au niveau médical qui existe actuellement, comme si, en tout cas, c'est façon erronée quand même, hein, que c'est comme si vous traitez cette maladie à vie, comme si vous ne pouvez pas la supplanter. Non, aujourd'hui, il faut qu'on fasse le vrai discours. On peut vaincre, on peut éviter d'abord ces maladies et on peut les vaincre. On peut vaincre l'hypertension, on peut vaincre le diabète, on peut vaincre le cancer. Et comment? Donc, c'est tout cela sera dit à cette conférence publique. C'est ouvert à tout le monde, mais notamment la cible là-bas, c'est les professionnels. Alors, les confrères ici, les travailleurs, vous voyez, les professionnels, ceux qui travaillent, qui vivent le stress du travail et tout, c'est eux que nous invitons à partir de 18h. 30 au Collège protestant. Nous allons passer ensemble 2 heures de temps, 3 heures de temps ensemble pour recevoir la bonne éducation en matière de santé.
Mmh. Et c'est les deux jours ou bien le vendredi aussi y compris?
Non, c'est les deux jours.
Les
donc,
deux jours.
On fait mercredi et puis
jeudi.
Et jeudi.
D'accord.
Et, donc, ça sera pour l'année prochaine.
D'accord.
La septième édition.
La septième édition. Cette fois-ci, c'est la sixième édition.
Oui.
Et donc, vous serez d'abord à Sieyé.
À Gouassié. Je dis non, pas à Gouassié.
À
Sieyé, à Dido Gomé.
À Dido Gomé, voilà.
Voilà, Sieyé. À Dido Gomé. À 6 heures. Ceux qui veulent, en tout cas, vivre, peuvent venir, hein. À 6 heures, on va commencer l'activité là-bas parce que les femmes, elles viennent au marché très tôt.
Voilà.
Et après,
Il y aura aussi des dépistages?
On ne va pas faire de dépistage cette année.
D'accord.
On veut plutôt passer à l'éducation, à l'information. Parce que vous savez, c'est ça qui manque. Hein. Aujourd'hui, la première darine qui manque aux populations, c'est l'information. Les gens n'ont pas l'information. C'est l'information qui va amener les gens à agir. On peut dépister. On a fait beaucoup de dépistage. Hein. On peut dépister. Mais que les gens aient d'abord l'information, commencer par agir sur leur santé. Nous, l'année prochaine, notre thème de travail sera « Ta responsabilité par rapport à ta santé ». Nous qui sommes les leaders au niveau de nos familles, quelles sont nos responsabilités par rapport à la santé des membres de nos familles? Nous-mêmes, en tant que communicateurs professionnels, journalistes, quelle est notre responsabilité? Chacun doit penser à sa responsabilité parce que nous sommes dans un pays où on doit arriver à cette devise-là. La responsabilité personnelle par rapport à la santé.
Mmh.
Voilà.
D'accord. Gadiel, nous allons ouvrir une fenêtre sur votre parution de mercredi.
Absolument.
Le mercredi prochain, nous avons la primeur de l'information, nous avons la parution même d'ailleurs ici. C'est vrai que c'est le mercredi et que cela va paraître. Mais vous, puisque déjà le mercredi, nous ne serons pas ensemble alors pour votre chronique.
Okay.
Surtout que nous allons animer l'émission Ouaka, la radio du littoral. Et c'est d'une manière spécifique qu'on le fait pour cette fois-ci, le mercredi. Et donc, déjà, à la une, alors, de votre journal Santé Éducation, on aura comme titre « Fête, associer plaisir et santé ».
Absolument. Vous savez, la fête, c'est le plaisir. Hein? C'est le plaisir, mais n'oublions pas que quand on se fait plaisir, il faut avoir toujours dans la tête la santé. Et nous répétons pratiquement les mêmes choses sur nos dernières parutions de cette de ce mois de décembre. Fêtons, mangeons, buvons pour le plaisir, mais faisons des choix alimentaires qui vont permettre qu'on garde nos santé. Je viens de le dire tantôt, et sur le marché togolais, il faut pas que des gens commencent par boycotter un certain nombre de produits. Ces sucreries et ces boissons énergisantes qui sont là sur le marché. Si vous n'avez pas d'argent pour boire une boisson pendant le jour de fête, votre corps ne va pas s'énerver. Votre cerveau ne va pas se mettre en grève ou bien ne va pas vous revendiquer quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez boire de l'eau avec votre pâte et votre ADMA et vous êtes bien dans votre peau. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important qu'on comprenne que il y a des choses sur le marché actuellement. On doit faire extrêmement attention à aller les acheter pour les consommer. Donc, faisons la fête. faisons le plaisir, mais rappelons que notre santé est primordiale.
Voilà, nous devons
donc, dans cet article, les experts donnent des conseils à tous ceux qui vont lire cet article.
D'accord. Il y a un autre article également qui parle de fêtes. Vous parlez de, vous écrivez, fêtes bien faites des repas en famille.
Oui, vous savez, les fêtes de fin d'année, souvent, c'est des familles qui se retrouvent. Hein, ailleurs, Noël, par exemple, bon, Noël mondain, si on peut le dire ainsi, bien Noël mondain, c'est la fête des familles. Les gens se retrouvent pour quitter des kilomètres pour venir, on se retrouve entre frères, entre parents. Et ça, c'est d'un. De deux, les plats, partager les repas en famille, c'est très important. Il y a des études qui sont faites. Et qui prouve que si nous quatre ici, dans ce studio, nous mettons à manger, nous discutons, ça apporte une valeur ajoutée à la santé de nous tous. Donc, vous voyez, c'est pas terrible quand une seule personne prend son plat le jour de fête. Ah, une seule personne quelque part, qui mange seule.
Voilà.
Ce n'est pas terrible.
Et il n'y a pas cette harmonie.
Il n'y a pas cette ambiance. Et tout. Voilà. Donc, les repas en famille, c'est très bien pour la santé. Pourquoi c'est très bien pour la santé? C'est des choses qui sont dites dans cet article.
C'est des choses qui sont dites alors dans cet article. Vous écrivez aussi sexuellement insatisfait, cause et remède.
Oui, la sexualité, on le dit, dans le couple, c'est absolument important. Ça contribue à l'équilibre de la famille. Donc, si monsieur n'est pas satisfait, si madame n'est pas satisfaite, il faut chercher les causes. Très souvent, dans nos communautés, on se tait. Et ça crée beaucoup de dégâts. Il faut communiquer, il faut chercher les causes. Maintenant, bon, on a deux remèdes dans cet article. Deux remèdes pour madame et pour monsieur. Pour rebooster la sexualité dans le couple. Je le dis bien, c'est pour le couple légaux. Comment chercher à améliorer l'intimité. C'est très important et pour la santé et pour l'harmonie du couple et de la famille.
C'est très important pour la santé et pour l'harmonie du couple et de la famille. Et Gazelle, et nous rappelons que le journal sortira le mercredi prochain.
Tout à fait.
Merci d'être passé. Merci de nous avoir rappelé toutes ces informations. Merci et ça vous. Fait plaisir. Merci de vous avoir et aussi, enfin, ravi de vous avoir dans cette émission. Merci beaucoup. Merci. Alors, Gosson, nous continuons notre débat et là, on parle de la dématérialisation du casier judiciaire. Mais le vendredi dernier, nous avons appris, même d'ailleurs, qu'il y a aussi la dématérialisation à partir de du vendredi dernier. Il y a la dématérialisation de l'acte de nationalité ou la pièce de nationalité. Et vous écrivez sur le sujet, surtout concernant la digitalisation du casier judiciaire. Vous écrivez « Digitalisation du casier judiciaire, les IPN, outils de lutte contre la corruption ».
Oui, Pascal. Personnellement, je ne cesserai jamais de le dire parce que j'en ai les preuves que aller vers la numérisation réduit la corruption et ses infractions assimilées. En ce sens que pour qu'on parle de corruption, il faut qu'il y ait en face le corrupteur et le corrompu. Mais du moment que, désormais, pour le certificat de nationalité, il suffit de renseigner la plateforme en ligne, de payer et d'avoir un numéro et un rendez-vous. Tu passes et on te délivre ta pièce.
C'est-à-dire l'argent ne circulera plus alors de la main de quelqu'un pour aller dans l'autre main.
C'est ça. Nous avions la correspondante de TV5 Monde et moi, Caroline Chauvet, sorti un article dans Jeune Afrique sur le sujet, la corruption au niveau de la justice. Il n'y a pas que au niveau du certificat de nationalité. Il y a d'autres secteurs aussi. Mais c'est déjà un bon pas. C'est vrai que l'État y travaillait depuis, mais de voir que c'est devenu réalité, ça, sur ce plan, c'est encourageant.
D'accord.
Puisque nous y étions, on a vu. L'essentiel est que il n'y ait pas trop de tracasseries et que celui-là qui a le CEPD aussi ait la possibilité de renseigner cela et de l'obtenir. Et on n'aura pas besoin forcément de formateurs ou alors d'autres démarcheurs qui vont vous renseigner la plateforme contre de l'argent. Là, on n'aura rien fait. Il faut tout faire pour que celui-là qui a envie de le faire, qui a mis les pieds à l'école et décroché son CPD, arrive aussi à renseigner les cases.
Mais il faudrait que cette personne aussi maîtrise l'outil informatique.
Bien sûr, du moment que la personne a l'Android, elle doit pouvoir être en mesure. Tout ça, c'est pour lancer un appel aux initiateurs de faire en sorte que s'il y a encore des choses à simplifier pour que la vie soit encore plus rose en griffe pour les demandeurs de certificat de nationalité, ce ne serait que du bien.
D'accord. Disais, la demande alors du certificat de nationalité qui se fait désormais en ligne, ça ce n'est qu'une bonne chose.
Très bonne chose, une très très bonne chose. Et je pense que ce n'est pas trop tôt d'ailleurs. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Parce que vous allez voir que ça va aider à résoudre beaucoup de problèmes. D'abord, au niveau même du service là-bas, l'embouteillage qu'on constate là-bas.
L'affluence.
Bon, oui, moi, je vais exagérer un peu en parlant d'embouteillage. Oui. Donc, ce qu'on observe là-bas, si vous êtes une fois allé là-bas, vous allez savoir de quoi il s'agit. Et c'est ceux qui ont déjà eu à faire ce parcours de combattant. Alors là, avoir son certificat de nationalité au Togo, il y a quelques mois ou il y a quelques années, c'était un parcours de combattant. Aujourd'hui, dire que depuis chez soi, un demandeur peut remplir un formulaire et il n'aura qu'à avoir un rendez-vous qui sera fixé sur la plateforme pour être reçu et après revenir recevoir le document officiel, mais c'est une très grande avancée et je salue cette initiative des autorités et les encourage d'ailleurs à rapidement avoir plus de machines pour que une fois qu'on est en train d'être dans la numérisation et dans la dématérialisation, que ça ne soit pas nécessairement à l'omé que les documents sont produits, parce que il servira à rien qu'on renseigne quelqu'un qui a d'appareil, on renseigne tout ça et que la production prenne également la production dure en réalité. Et donc une fois qu'on est déjà dans la logique de faire vite et d'aller vite, il faut qu'on dote la direction de Sceaux et de la nationalité de assez d'outils pour que, sachant que les demandes vont se faire maintenant en ligne, il y aura plus de demandes qu'il n'y en avait. Donc, ça veut dire qu'on devrait avoir plus de machines qu'on en avait pour commencer ou pour facilement produire ce document-là et le mettre à disposition des Togolais. Donc, si c'est possible, on peut même mettre des machines. Vous savez, il y a un peu comme cette machine-là qu'on a mis au niveau de l'aéroport de Lomé. On peut également mettre ces machines-là au niveau des préfectures pour des citoyens qui n'ont pas peut-être les outils, peuvent pas aller n'ont pas des ordinateurs et tout ça. Mais ces outils-là intelligents qui permettent de renseigner un certain nombre de formulaires, si on peut les positionner au niveau des préfectures à l'intérieur du pays, pour ceux qui n'ont pas de bonne connexion, ils n'ont pas de bons appareils Android ou électroniques pour pouvoir renseigner, si ces outils-là peuvent être positionnés au niveau des préfectures, ça permettrait de remplir facilement ce formulaire-là et déposer donc sa demande le temps d'avoir un rendez-vous pour répondre aux questions de vérification nécessaires pour avoir le document.
Oui, mais Gosson, jusque-là, on parle de la décentralisation, mais je pense que c'est un processus également de déconcentration avec le fait que déjà on arrive à digitaliser ces services qui sont en quelque sorte des services à l'ordre de l'État et tel que Didier l'a dit tout de suite, avec les machines qu'on mettra en place, là, ça permettra même d'ailleurs de recevoir son certificat de nationalité dans les préfectures.
Oui, tout ça fait partie de l'initiative. Ça veut dire que celui-là qui est à Dapaon, qui aura rempli la plateforme, prendra soin de préciser le centre dans lequel il veut faire le retrait. Ça veut dire qu'il n'y aura pas qu'à Lomé qu'on aura à retirer le certificat de nationalité. Je levais la main juste pour dire que ces agents, ces employés qui sont au service de la nationalité, et qui arrondissait trop leur fin de mois par ces dessous de table. Parce que la corruption, initiée par les démarcheurs, c'est ensemble avec des agents au service des nationalités. Donc désormais, ces agents devront se contenter de leur paye de fin du mois. Et ces démarcheurs devront se trouver d'autres jobs. La terre n'a jamais trompé pour survivre.
D'accord, je pense que le conseil est allé à ces démarcheurs. Et...
si tu parles comme ça, des gens vont avoir peur. Ça veut dire que toi, tu renvoies des gens à la terre. Les gens n'aiment pas ce discours dans ce pays. Il faut être honnête. C'est ce que tu dis, c'est correct, hein. C'est la réalité. Mais est-ce que les gens qui sont dans l'administration veulent aller faire la terre? Les gens ont pensé à un moment donné que dire que non, les gens vont aller cultiver. Les gens, la terre n'a jamais trompé, que c'est dire qu'on va chasser un certain nombre de personnes. Je ne crois pas que c'est ce que Gosson voudrait dire. Il voudrait juste dire que les gens pourraient embrasser d'autres sources de revenus supplémentaires. Voilà, en plus de ce qu'on leur paie à la fin du mois, je ne crois pas que...
C'est ça, mais est-ce que la terre n'est pas source de revenus, Didier?
Je pense bien.
Ce n'est pas avec la roue qu'on va le faire, mais bref.
D'accord. On quitte le débat. On quitte le débat. On s'intéresse à la politique. Gosson, vous écrivez lentement mais sûrement, l'étau se resserre sur le régime de dictature de Fonia Singbe. Qu'est-ce que vous voulez dire, Gosson?
J'aurais donné décrocher la lune pour que tu me poses pas cette question.
Mais je voulais poser.
Bon, il y a certains ou alors un exemple concret. Le cas syrien. Pendant longtemps, les gens pensaient que Al-Assad était...
Bachar Al-Assad.
Bachar Al-Assad était pourchassé, poursuivi abusivement. Mais il a fallu que il ne soit plus au pouvoir pour qu'on constate que il y a des détenus qui font jusqu'à 40 ans dans les geôles des prisons syriennes. C'est parce que c'est inhumain.
Ils sont rentrés jeunes aujourd'hui, ils sont pratiquement dans le troisième âge.
C'est inhumain. C'est en ça que quand des gens, pour des raisons sécuritaires, menacent votre pouce et que vous les détenez, il doit arriver un moment où pour la paix sociale, vous devez faire l'effort sur vous-même de leur redonner une seconde chance. Le 4 mai arrive bientôt parce qu'il y a certains Togolais qui ne reconnaissent pas la 5e République et qui tiennent coûte que coûte à ce que on s'en tienne à la 4e et donc qui doit acter la fin du mandat du président actuel au soir du 4 mai. Donc, au vu de tout ça et par rapport aux actions que sont menées, c'est ceux-là, on a estimé mettre ce titre-là pour l'apparition du jour. À ceux qui sont intéressés par le contenu, je les invite à vite se procurer le numéro pour voir la quintessence et les mots utilisés.
D'accord. Voilà. Okay. Disais, avant le 4 mai dont parle Gosson, il y a d'abord le 2 février. Le 2 février, c'est bien les sénatoriales. Les sénatoriales, et là, il y a un certain nombre alors de partis politiques qui se prononcent même depuis un temps sur ces sénatoriales, au moment où ces sénatoriales ont été annoncées. Alors, dans ce week-end, c'est l'ANC qui s'est prononcée là-dessus. Et l'ANC qui ne veut pas s'associer à ces sénatoriales ou à ces élections sénatoriales. Alors, et finalement, est-ce que vous êtes arrivé à comprendre l'ANC dans sa logique?
Comprendre l'ANC dans sa logique, comprendre, c'est compliqué. Je pense que l'Alliance nationale pour le changement avait participé aux élections législatives et régionales et après, ils ont contesté. Bon, d'abord, ils avaient déjà contesté la constitution, la nouvelle constitution. Ils ont contesté les résultats des élections et ont dit qu'ils ne... donc le parti a dit qu'il ne va pas siéger à l'Assemblée nationale et que ses conseillers régionaux également n'allaient pas siéger dans les conseils régionaux. Donc, on en était encore là quand le gouvernement a annoncé les élections sénatoriales pour le 2 février. Et quand on sait la configuration de ces élections sénatoriales, le corps électoral et tout, on connaît déjà, tout le monde peut être en train même déjà de mettre le résultat. Hein, tout le monde peut dire 41 sur 41. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que ça vaut encore la peine pour un parti politique comme l'ANC de gaspiller son énergie pour des élections où on sait que, voilà...
Puisque le Jean-Pierre Fabre l'annonçait que pratiquement 95% de ce corps électoral est composé déjà alors du parti au pouvoir.
Bon, naturellement. Donc, l'issue de ces élections est déjà connue. Est-ce que pour un parti politique de l'opposition qui n'a pas assez de moyens, qui n'a pas... Bon, est-ce que ça vaut encore la peine d'aller gaspiller son énergie et de l'argent lors de ces scrutins? Sur ce plan-là, je les comprends. Si c'est pour il sert à rien d'aller concourir pour quelque chose où on connaît les résultats déjà. Sur ce plan-là, je les comprends parfaitement. Mais bon, voilà, s'il y a d'autres considérations, c'est à eux maintenant de nous les expliquer.
D'accord. Oui, mais Gosson, est-ce que ce n'est pas pour ça, peut-être quand Jean-Pierre Fabre annonçait que déjà 95% du corps électoral est composé du parti au pouvoir, est-ce que ce n'est pas pour ça que Maître Tassona fait une proposition et demande plutôt au chef de l'État ou au président du Conseil des ministres de choisir ou de nommer plutôt, j'allais dire, le un tiers dans le rang de l'opposition?
Tu sais, pour ma petite personne qui n'a jamais cessé de dire que, en l'état actuel de la configuration politique du Togo, et par rapport à notre budget organisé des sénatoriales, ce serait de la dilapidation de fonds publics. Puisque, d'abord, hormis les 41 qui seront élus, il y aura 20 qui vont être nommés. Vous voyez notre président nommer des gens de l'opposition qui vont lui créer des problèmes. C'est-à-dire que la constitution même qui permet l'organisation, l'augmentation du nombre de députés, l'organisation du nombre de conseillers régionaux, de sénateurs, on a l'impression que, personnellement, on pense trop peu au bas peuple. Parce que le Togolais lambda, ce ne sont pas ces élections qui constituent sa pierre angulaire, son souci. Comment arriver? Personnellement, il y a longtemps que j'ai cessé de manger 3 fois par jour. Pas par plaisir, je te mentirais. Mais la vie m'y a contraint. Si moi, je l'avoue ainsi, qu'en est-il de tous ces Togolais, ces millions de Togolais qui, de par le pays, ont du mal à joindre les deux bouts? Et maintenant, on viendra leur parler de sénatorial, des gens qui vont percevoir, à qui on doit confectionner un budget, comme on va le faire pour les conseillers régionaux. Je disais que notre pays n'a pas besoin de sénatorial. Et si aujourd'hui, des partis politiques, je dois le dire ainsi, commence à s'aligner derrière ma petite personne, c'est de bonne guerre. D'accord. Ça ne vaudra pas grand-chose.
D'accord, ok. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat et donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à entrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 13.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Bonsoir, bonjour.
Bonjour Basile, comment vous allez?
Ah, je vais togolaisement bien.
D'accord, allez-y.
Bon, vous-même, vous voyez tout ce qui se passe. Cela, nous tous, comme tout le peuple togolais, on compatit sérieusement à leur drame et qu'on présente nos condoléances. vous voyez, les marchés gris-gris, est-ce que ça engendre que ça soit comme ça et qu'on vienne sur les ondes nous dire autre chose, que nous sommes au paradis alors que nous n'arrivons pas à manger une fois par jour. Vous comprenez nos exaspérations pour que ces gens se nous trouvent en face. Voilà quoi. Et pour dire quoi encore, je pense que c'est ça. Et interpeller aussi le président de la République, les fêtes sont arrivées, le pays est comme nous sommes tous en deuil, il n'a qu'à savoir ce qu'il va faire. Il est le père de ce pays. Même si c'est n'importe quoi, n'importe comment plutôt, il est le père. On ne doit pas être dans un pays comme ça, comme nous sommes tous dans le deuil. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. Salut, Canal FM. J'aimerais savoir s'il y a une hauteur appropriée des marchandises aux porteurs gros camions, car il y a certaines vidéos même qui circulent. Les camions ont même des difficultés à passer sous les passerelles. Merci, c'est André depuis Dakar. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado, comment vous allez?
Ça va très bien.
Allez-y.
Je voulais demander au plateau, comment se fait-il un camion peut être tombé un pont? Vous savez, c'est pas normal. On doit chercher celui qui a conduit ce point. Parce que la tutelle, là, c'est le tonne. Vous voyez, c'est le tonne. Comment le tonne a pu faire tomber un béton armé? Avec quel fer ils ont fabriqué ça? Combien de bateaux de ciment? Il faut chercher tout ça, là. Les gens doivent être punis. C'est pourquoi je dis à toi de punir dans ce pays. Un camion n'a pas fait tomber un pont. Comment ça? Ah non, nous sommes foutus dans ce pays, hein. Expliquez-moi comment un camion peut faire tomber un béton armé. Expliquez-moi, merci, bonne journée.
Merci, Monsieur Gado, pour votre intervention. Allô, bonjour.
Bonsoir, bonjour, camarade.
C'est Richard, depuis Copenhague.
Excusez-moi, je n'ai pas de retour, comme d'habitude.
Oui, allez-y.
Je voulais me prononcer sur ce parterre qui a causé l'accident au niveau d'Agosé. Bon, étant technicien du bâtiment, et je pense que l'erreur n'est pas du constructeur de ce parterre. L'erreur venait premièrement des personnes qui ont chargé ce camion. En réalité, ça devait être posé sur un pont charge. Le chauffeur lui-même, si je vois passer à 50 à 100 mètres, il y a des feux de couleur. Cette route, on ne pourrait même pas rouler à 50 à l'heure. Quand il s'approche de ce passerelle avec ce chargement qui est hors norme, qu'est-ce qu'il devait faire? Mes chers compatriotes, vous devez faire ce genre d'analyse. Même un passerelle devait même se faire en tampon. Mais la hauteur, si la hauteur est respectée, oui, c'est à plus de 5,50 m de hauteur. Vous devez voir qu'il y a beaucoup de voitures, de camions qui passent sans dommage. Et je vous rappelle que la palette aussi qui est posée, ce sont des feuilles de paris qui sont venues déposer. Vous l'avez retrouvée par terre. Elle n'était pas trop endommagée. Mais ici, je suis en train de faire des appels au gouvernement, les autorités, de sévir parce que le civisme a pris le Togo. J'aimerais que le gouvernement puisse sévir sur ce gendarme. Merci, Canal.
D'accord. Merci beaucoup, Richard, depuis Copenhague. Il y a Modeste également qui nous écrit depuis Paris. Bonjour, Canal FM, c'est Modeste de Paris. Concernant le drame du vendredi dernier, moi, je donne la responsabilité à notre gouvernement. Je ne comprends pas comment on peut construire ce truc appelé passerelle sur une nationale numéro 1, sachant bien qu'on n'a que cette seule route. Si on limite et interdit aux véhicules d'un tel gabarit à ne pas passer par là, on veut que ces véhicules passent par où? Mon pays va mal. Condoléances aux familles des victimes. Un auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui, votre nom c'est?
Je suis Mathieu de Yokoi.
Mathieu, vous nous appelez de Yokoi. Allez-y, Mathieu.
Je me porte en contradiction avec notre Danois. Et c'est la responsabilité de l'État. Faut pas qu'on passe par quatre chemins pour dire que c'est le pouvoir en place qui est responsable de tout ça. Mon frère, vous pensez que c'est toutes les voitures, toutes les gabarits qui peuvent passer par la voie de la présidence? Ça, c'est une seule vie. Et maintenant, une route qui incarne beaucoup de vies humaines, on ne prend pas soin. Quand ce camion chargé, déjà arrivé au niveau du pont de d'Agouet, dans son traversée, est-ce qu'il n'y a pas de policiers là-bas? Ils sont là pour anarquer les immigrants, les taximens et autres. Pourquoi ils n'ont pas alerté ce camion qui était de passage pour dire que ta charge peut endommager la parcelle qui est devant? Et même dans sa construction, comment on peut buter un béton au lieu que ça dédommage, ça endommage le béton? C'est plutôt le béton qui tombe. C'est pas c'est du lait. C'est pas bon de l'entendre. Donc c'est moi en tout, je crois que l'État va prendre sa responsabilité, reconnaître que c'est son erreur et faire un mea culpa.
D'accord. Et merci Mathieu pour votre intervention. Allez.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Oui, Nyamavo.
Allez-y.
Oui, notre histoire fait téléphone. Hein. C'est triste. S'il vous plaît, aidez-moi, je ne sais pas combien de morts on doit atteindre avant de décréter un deuil national. Ici, c'est sur la nationale numéro 1. C'est un ouvrage de l'État. Hein, qui a tué de cette façon de prédire le citoyen qui cherchait à venger. Et j'interpelle aussi ceux qui se cachent dans leur chambre pour dire que bon, on n'a qu'à les laisser. Qu'on vote ou non, c'est eux qui vont toujours gagner. Et les gens se réveillent. Sinon, tous nous allons mourir dans ce pays. C'est triste. Sinon, vous avez tout dit. Voilà, c'est ce que j'interpelle la population. Quoi. Ils n'ont qu'à prendre conscience que depuis la construction des routes, la Cour des comptes a sorti les documents, tout. Comme quelqu'un le disait ce matin, que ceux qui se servent au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils viennent par un mandat, ils ne sont pas différents de ceux qui vont en prison, qui reçoivent les mandats de peuple. Et on reste longtemps en prison parce qu'on commet beaucoup de crimes. Donc on ne veut pas partir parce qu'on sait qu'on a beaucoup, on fait beaucoup de dégâts. Bonne émission.
Merci, Monsieur Nyamavo. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô? Ah, bah ça, je suis le dernier. Premier et dernier.
Oui, allez-y, Basile.
Non, pour dire que cet ouvrage, c'est pas fait dans les règles de l'art. Bon, il faut qu'on soit conscient de ce que nous disons sur les médias. Personne n'en veut à que. Moi, notre frère danois, je ne sais pas pourquoi il est en Danemark, et lui ne pense que tout le bien de notre pays ici. Et nous, ici, on ne voit pas ça. Il n'a qu'à un peu se corriger.
Non, mais Basile. Merci. Basile. Allô, Basile, il est parti. Mais c'est sa manière de penser aussi, hein, et puisque la vie des uns et des autres compte toujours dans cette émission. Chacun a sa manière de dire et de dire sa pensée, de dire sa réflexion, hein, telle que cela se doit sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Et nous faisons bien également de mettre à votre disposition notre numéro WhatsApp. Il y a beaucoup de gens également qui ont réagi à travers notre numéro WhatsApp. Je vous livre cette réaction de cet auditeur rapidement avant quand même qu'on ne fasse le tour de table et clôturer l'émission. Bonjour Canal FM, je m'appelle Rodrigue et je suis à Vepozo. Tous les ouvrages sur le territoire togolais sont à refaire. Toutes ces passerelles installées de part et d'autre sur le territoire sont ce qu'on appelle des pollutions visuelles et sont des pacotis. Sinon, comment un camion remorque peut cogner et démolir tout cet arsenal de béton? Reste à savoir à l'heure, là, on pense au grand pont qu'on appelle tout ce contournement et on se demande à quand dépêcher des experts pour évaluer les travaux et s'assurer pour d'éventuels écroulements par un quelconque camion et je ne sais quoi. Alors, c'est vrai que c'est long. Il faut être toujours succinct quand vous écrivez pour que ça nous allège aussi la tâche hein, pour le lier à l'antenne. C'est très important. Merci beaucoup à vous qui avez réagi à travers ces sujets débattus ici au Club de la Presse. Nous, chers confrères, nous allons revenir en studio. On fait un dernier tour de table et clôturer l'émission. Disiez, vous avez écouté les uns et les autres votre réaction?
Non, c'est, je suis heureux de constater que pour une fois, on est unanime sur ce sujet-là, ce drame-là. On aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter si chacun a pu jouer son rôle à son niveau et en amont. On aurait pu éviter ce drame, ne pas être en train de déplorer aujourd'hui 8 morts et qu'il y a encore 3 blessés graves avec des dégâts qu'il y a eu. Donc c'est ça doit pouvoir, je me dis, le débat qu'on a eu à mener doit pouvoir donner matière à réfléchir aux autorités, puisque ces ouvrages, la plupart sont en cours de construction encore, où il y a encore d'autres éventuellement à faire, vu que la ville de Lomé ou le Grand Lomé est en train de s'étendre. Donc on a toujours besoin. Et donc il faut qu'on prenne la mesure de cette situation-là. D'abord qu'on situe les responsabilités et après, pour ces marchés-là, qu'on sache finalement quoi faire pour que ces drames, les drames pareils n'arrivent pas. Mmh. Déjà, depuis que le drame de Aguezongo s'est produit le vendredi dernier, vous voyez des images qui circulent, notamment par rapport à cette même passerelle d'Adetikopi, par exemple, où il y a beaucoup de défaillances qui se voient à l'œil. À l'heure nue comme ça, avec des partis qui veulent céder et tout ça, et donc des gens commencent déjà pas à faire des alertes. Il faut que les autorités prennent la mesure de la situation en même temps et essayent de faire ce qu'il faut pour éviter que des drames similaires arrivent à ce niveau-là également.
D'accord. Disiez votre note de fin d'émission.
Non, je n'ai pas de note. Je passe.
D'accord. Gosson.
Oui.
Réaction.
Je n'ai pas vu le sujet sous l'angle de M. Gado quand il a dit comment est-ce que c'est un camion citerne qui fait tomber un béton de cette taille. Oui. Quand je revois l'emplacement, puisque je l'emprunte souvent, en quittant les feux, le camion ne peut pas avoir adopté une certaine vitesse déjà. Donc, ça ne doit pas être en train de filer. Et même avec cette distance, il ramasse le pont et le pont qui tombe comme ça. C'est triste, Pascal. Chaque fois, désormais, déjà ce matin, chaque fois que j'approche des passerelles, pendant que je contrôle ma voie, je regarde de l'autre côté s'il n'y a pas un camion d'une certaine hauteur qui est en train de passer. Ça a l'air risible, mais c'est sérieux.
Puisque là, vous serez en danger, c'est ça?
Voilà. Donc, c'est notre national numéro 1. En même temps que, par exemple, notre port en eau profonde, on s'en enorgueille en disant que dans la sous-région, c'est le Togo qui a ce pont. Voilà que sur notre national numéro 1, un camion de ce gabarit ne peut pas passer. Celui-là qui disait que les chauffeurs, les policiers auraient pu constater la hauteur, les policiers n'ont pas de mètre dans l'œil pour mesurer la hauteur, savoir que cette hauteur ne peut pas passer sous la passerelle. Donc, sachons...
Mais avis d'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas aussi l'observer?
Même si ça dépasse une certaine hauteur, s'il y avait le dispositif pour limiter la hauteur, c'est pas le rôle du policier, c'est le rôle de...
D'accord. Votre note de fin d'émission.
Je suis trop triste pour en décerner.
D'accord. Merci beaucoup, Gosson Keto-Magnan du journal Liberté. Ça fait plaisir d'être avec vous. Je vous donne, moi personnellement, je vous donne 10 sur 10 par rapport au débat lors de ce jour, puisque c'est vrai, vous êtes seulement que deux confrères, mais vous avez quand même su apporter justement l'information et faire le débat, l'analyse lors de tous ces sujets que nous avons évoqués. 10 sur 10. à vous comme note. Merci beaucoup, Gosson Ketomania. Merci, Didier Assogba, pour votre contribution à cette émission. Vous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission, merci à vous. Vous qui nous avez appelés aussi, merci à vous. Michel Kokou, Vitor Guetomega a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.